إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui c'est le cours numéro 30 de la série Al-Mulakhas al-Fiqhi, un livre de fiqh écrit par le Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc on est arrivé maintenant, on n'a pas terminé encore d'expliquer les règles en ce qui concerne la prière du Jumu'ah. Donc on continue cette section. Le Cheikh il dit: wa salatul Jumu'ah fardu 'aynin 'ala kulli muslimin dhakarin hurrin mukallafin mustawtin. Donc ça veut dire que la prière de Jumu'ah, elle est obligatoire pour tout homme musulman qui est libre et qui a atteint l'âge de puberté et qui est résident dans une cité, hein, qui n'est pas en voyage, c'est-à-dire. Et il dit le Cheikh: rawa Abu Dawud bi sanadihi an Tariq ibn Shihab marfu'an al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'a: 'abdun mamluk aw imra'a aw sabiyyun aw marid. Isnaduhu thiqat wa sahahahu ghayr wahid. Donc le Cheikh il dit, il rapporte un hadith qui est rapporté par Abu Dawud avec un isnad qui va jusqu'à Tariq ibn Shihab, qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, il est sahih, il est déclaré sahih dans Irwa al-Ghalil. Et donc le hadith il dit quoi? Il dit que le Jumu'ah il est obligatoire, il est vrai et il est obligatoire pour chaque musulman en groupe, excepté quatre personnes ou quatre catégories de personnes. La première, c'est un esclave. Le deuxième, c'est une femme. Le troisième, c'est l'enfant. Et le quatrième, c'est le malade. Donc ça, c'est les quatre personnes ou quatre catégories de personnes pour qui le Jumu'ah n'est pas obligatoire. Un esclave, une femme, un enfant ou un malade. Et il y a également, comme on a mentionné tout à l'heure, le fait que quelqu'un doit être résident, c'est-à-dire doit pas être en voyage. Et il mentionne donc un autre hadith, il dit: rawa ad-Darqutni bi sanadihi an Jabir anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fa'alayhi al-jum'atu yawm al-jum'ah illa maridan aw musafiran aw sabiyan aw mamlukan. Donc le Cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par Ad-Darqutni avec son isnad jusqu'à Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit au jour dernier, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors il doit faire obligatoirement la prière de Jumu'ah le jour de Jumu'ah, excepté s'il est excepté un malade ou un voyageur ou un enfant ou un esclave. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ad-Darqutni et Al-Bayhaqi. Toutefois, j'ai pas trouvé la référence d'authenticité pour ce hadith-là. Hein? Toutefois, les principes qui sont dedans sont bien connus dans la charia et d'autres hadiths qui prouvent ça. Cheikh il dit: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يذعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك وإنما الأصل أن يكون أو أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين يتنجعون في الغالب مواقع القتل وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. Donc le Cheikh il dit ici que l'imam Ibn Taymiyyah a expliqué que toute personne qui est résident et qui est où il y a des résidences toutes ou des habitations qui sont toutes une à côté de l'autre, alors et que c'est un endroit où il reste en été comme en hiver, eh bien on doit établir dedans la prière de Jumu'ah. Peu importe que l'endroit où on établit le Jumu'ah soit fabriqué de bois, de bambou, ou bien de palmier, ou bien de terre, ou peu importe de quelle matière le bâtiment est fait. L'important c'est que ce soit un bâtiment qui est construit dans un matériel qui est commun, yani, et dont les gens ont l'habitude de se servir dans cette région-là. Et il dit que à la base, il dit que tous les citoyens ou les résidents qui habitent dans un endroit, qui ne sont pas des nomades, qui se déplacent d'une place à l'autre et qui transportent avec eux leurs habitations, eh bien, tous ceux-là, pour eux, c'est obligatoire de faire le Jumu'ah. Et il dit لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. Le Cheikh il dit que il n'est pas obligatoire de faire le Jumu'ah pour quelqu'un qui est voyageur lorsque c'est un voyage dans lequel il est permis de raccourcir sa prière. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ils faisaient des voyages et ils allaient au Hajj et à d'autres endroits et il y en a aucun d'entre eux qui faisait dans ces situations-là la prière de Jumu'ah. Ensuite le Cheikh il dit وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْبَرِّ في نزهة أو نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا. Donc le Cheikh il dit celui qui sort qui s'en va en voyage dans un endroit soit pour un voyage de loisir ou juste pour se relaxer avec sa famille, hein, et puis qui va dans un endroit où il n'y a pas de mosquée dans laquelle on fait le Jumu'ah dans les alentours, alors dans ce cas-là, yani, il n'a pas à faire le Jumu'ah, c'est pas obligatoire pour lui, et il fait la prière de Dhuhr, car la prière de Dhuhr c'est uniquement obligatoire pour ceux qui ne sont pas voyageurs. Après, le Cheikh il dit, ولا تجب على امرأة c'est pas obligatoire de faire la prière de Jumu'ah pour une femme. وقال ابن المنذر وغيره اجمع على ان او لا جمعة على النساء واجمعوا على انهن ان حضرنا الامام فصلينا معه ان ذلك يجزئ عنهن. Donc le Cheikh il dit ici que Ibn al-Munzir il a dit dans son livre Al-Ijma', il dit que les ulama sont d'accord pour dire que il n'y a pas de Jumu'ah obligatoire pour la femme. Et ils sont également d'accord que si la femme assiste à la prière avec l'imam et qu'elle prie avec l'imam, eh bien dans ce cas-là, c'est correct pour elle, ça compte pour elle comme si elle aurait prié le Jumu'ah. Le Cheikh dit wa dhalika idha hadaraha al-musafir. Wa kadhalika idha hadaraha al-musafir ajza'athu وكذلك المريض لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم ولا يجوز لمن يلزمه الجمعة لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس يصليها وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه. Donc le cheikh il dit que de même que pour la personne qui par exemple disons que il est en voyage puis il arrive à un endroit où on fait la prière de Jumu'ah, alors dans ce cas-là s'il prie la prière de Jumu'ah, alors ça compte pour lui également, même si c'est pas obligatoire pour lui de le faire. De même que le malade, quelqu'un qui est malade, s'il le fait, c'est pas obligatoire pour lui, mais s'il le fait, eh ben ça compte. Ça compte pour lui comme s'il aurait prié al-Jumu'ah. Et pourquoi on l'a fait tomber l'obligation à leur sujet, c'est pour disons alléger la tâche, pour pas qu'ils aient justement de difficultés dans leur religion. Et le cheikh il dit que si celui qui veut voyager après le zénith, après que le soleil a dépassé son zénith, c'est-à-dire après que le temps de la prière de Dhuhr soit commencé, eh ben il doit la prier absolument s'il prie. C'est-à-dire s'il part après l'entrée du temps de la prière de Dhuhr, il doit prier le Jumu'ah avant de partir. Sinon, il dit s'il part avant que le temps de la prière de Dhuhr commence, alors pour lui c'est déconseillé de voyager dans ce cas-là. Et donc sinon il l'a pris dans son chemin, hein. Il fait la prière de Dhuhr dans son chemin. Donc le cheikh il dit ici وَيَشْتَرِتُ لِسِحَّةِ الْجُمُعَةِ دُخُولُ الْوَقْتِ. Donc là le cheikh il va mentionner maintenant les conditions pour que le Jumu'ah soit valable, et en tout il mentionne trois conditions, si je ne me trompe pas c'est bien trois conditions. Le cheikh il mentionne la première condition, il dit دخول الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل وقتها ولا بعده لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته وأدائها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء وآخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. Donc le cheikh il dit que l'entrée du temps de la prière de Jumu'ah, il dit parce que c'est une prière obligatoire, ça c'est une condition donc pour pouvoir faire la prière. Il faut que le temps de cette prière-là soit entré. Et le cheikh il dit, il est nécessaire comme condition que le temps de la prière soit entré. Et il n'est pas permis avant ce temps-là de faire la prière de Jumu'ah. À cause du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit la prière est prescrite pour les croyants dans des temps bien déterminés et bien spécifiques. Et donc le cheikh il dit que de faire la prière après que la prière de Dhuhr, le temps de Dhuhr soit entré, c'est mieux de le faire dans ce temps-là. C'est mieux d'attendre que le temps de Dhuhr soit entré pour la faire, car c'est le temps dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de Jumu'ah à son époque. Et donc Ça c'est le plus commun, yani, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait ça après le zénith, après que le soleil est passé le zénith, c'est-à-dire le plus haut point dans le ciel. Après il dit wa ada'uha qabla az-zawal mahallu khilaf, de faire la prière de Jumu'ah avant le zénith. Ça c'est une question sur laquelle il y a une différence d'opinion, tandis que tout le monde est d'accord, tous les ulamas sont d'accord pour dire que la fin du temps de la prière de Jumu'ah c'est au début de la prière de Al-Asr et à la fin de la prière de Dhuhr. Ensuite le cheikh il mentionne comme deuxième condition نعم وأن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاه الجمعه. Donc le cheikh dit comme deuxième condition il faut que les gens qui prient le jumu'a soient des habitants d'une ville où il y a des maisons construites et que ce soit des bâtiments qui ont l'habitude d'être comme qui sont construits tels que c'est l'habitude dans les villes, et c'est pas permis de ou bien c'est pas correct pour des gens de qui habitent dans des tentes ou des maisons faites en peau d'animaux ou des choses comme ça, de ou en laine ou des trucs comme ça, de faire de faire le jumu'ah pour ces gens-là. Pour eux c'est pas obligatoire. OK, c'est uniquement pour les gens qui habitent dans une ville où il y a des maisons bâties. Ensuite il dit ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. Le cheikh il dit que celui qui a attrapé une raka'a de Jumu'a alors il la complète comme étant Jumu'a. Ça c'est basé sur un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira qui dit celui qui a attrapé une raka'a du Jumu'a alors il a attrapé la prière. Et ça c'est, le cheikh il dit, c'est rapporté par Al-Bayhaqi et à la base c'est dans Sahihain. Donc à la base c'est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Et c'est basé sur un hadith qui dit من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. C'est celui qui a attrapé une raka dans la prière, c'est comme s'il a attrapé la prière en entier. وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. نعم. Donc le cheikh il dit que donc s'il trouve que l'imam a relevé sa tête dans la deuxième raka, quand l'imam a relevé sa tête du rukou, eh ben quand il arrive et que l'imam a déjà relevé sa tête dans le rukou, il doit entrer dans la prière avec l'intention de faire la prière de Dhuhr. Et quand l'imam fait le taslim, il continue sa prière comme étant une prière de Dhuhr. C'est-à-dire, il va faire 4 rak'a, il ne va pas faire comme si c'était Jumu'ah, 2 rak'a seulement. Ensuite, le Cheikh dit وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلْ مِنْ رَكْعَةٍ non, ça j'ai déjà lu ça. Il dit وَيَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا. وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه. Et la troisième condition que le cheikh il mentionne ici, il dit que parmi les conditions pour que la prière de Jumu'ah soit valable, il faut qu'il y ait deux khutbah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours l'habitude de faire deux khutbah. Et il mentionne le hadith qui est rapporté selon Ibn Omar par Al-Bukhari Muslim, et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire le khutbah en deux. Il faisait deux khutbah. Et il faisait les deux khutbah debout, et il les séparait, entre les deux par une courte. C'est-à-dire, il s'assoyait quelques secondes, et puis il se relevait tout de suite entre les deux khutbah. Donc, après le shaykh il dit: وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِمَا حَمْدُ اللَّهِ وَالشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْمَوْعِظَةُ وقراءة شيء من القرآن ولو آية بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. Le Cheikh dit également, parmi les conditions pour que le Jumu'ah soit valable, il faut qu'il y ait la glorification d'Allah, Alhamdulillah. Et il faut qu'il y ait la mention des deux shahadatain, c'est-à-dire Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il faut qu'il y ait le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il y ait donc la mention du salut et de la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut qu'il y ait la mention de l'encouragement, ou de la notion que, dans le sens qu'on doit inciter les gens à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à la crainte d'Allah, et faire une exhortation. Ça, c'est une autre condition. Il faut également réciter quelque chose du Coran, même si c'est un seul verset. Et il dit que ça, c'est en contradiction, ou bien c'est qu'est-ce que les khutaba aujourd'hui sont en train de faire. Quand ils font leur khutba, parfois c'est contraire à ces conditions-là, parce que en général, les khutab qu'ils font sont vides de ces conditions-là, ou de la plupart de ces conditions-là. Ensuite, le Cheikh il dit, قال الإمام ابن القيم: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات رب وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون أو فيذكرون من عظمة الله وأسمائه وما يحببه إلى خلقه ويؤمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. الشيخ الزي كالإمام ابن القيم الشيخ الزي كالإمام ابن القيم Rahimahullah a mentionné dans son livre Zadul Ma'ad à propos des khutab, il dit: celui qui médite sur les khutab du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les khutab des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va réaliser que yani, elles sont remplies de guidance et de tawhid, du rappel et de la mention des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des fondements principaux de la foi et de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que du rappel de ses bienfaits qui font que yani Allah, que les gens vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont faire en sorte que ils vont craindre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani ces khutabs doivent être également remplis du commandement de se rappeler d'Allah et de se rappeler de se rappeler qu'on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on se rappelle d'Allah et lorsqu'on le remercie, eh ben ça fait en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala, on va l'aimer encore plus. Et on doit également rappeler les gens de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs et de ses noms qui vont faire en sorte que la création va aimer Allah encore plus. Et donc on doit ordonner aux gens de l'obéir et d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et de mentionner au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui fait en sorte qu'on va aimer Allah encore plus. Donc les gens qui vont assister à une khutba comme la khutba du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, lorsqu'ils terminent et lorsqu'ils s'en vont de cette khutba et lorsqu'ils quittent, ils quittent en ayant entendu des choses qui font que ils ont aimé Allah et Allah les a aimés. Ensuite, le temps est passé et puis la lumière de la prophétie a, disons, diminué et les gens ont commencé à appliquer des choses comme des rituels qu'on établit sans comprendre et sans vouloir atteindre le but de ces adorations, hein. Donc les gens font juste les rituels à l'extérieur comme des gestes ou des habitudes qu'ils ont pris, mais sans réellement comprendre la réalité de leur signification et des buts qui sont derrière ces applications-là. Alors ils ont établi ces choses-là, puis ils ont manqué de prendre en considération les conditions et les buts yani, de ces adorations-là, comme par exemple de la khutba et de la prière, etc. Donc ils ont commencé à faire des khutba remplies de rimes, hein, ils font des phrases avec des rimes et des mots bien choisis yani, pour essayer de montrer leur éloquence et leur talent de rimeur. Toutefois le message passe pas yani, et puis le message est pas profond parce que c'est pas basé sur la sunna, hein. Donc lorsque c'est comme ça, et bien en fait les gens profitent moins de la khutba et ils ont les cœurs en sortent avec peu d'exhortation, et donc le but de la khutba est perdu à cause de ça. Donc j'ai essayé de traduire le sens général le plus clairement possible. Ensuite le cheikh dit: وهذا ما قاله الامام ابن القيم في طابع الخطب في عصره قد زاد الامر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم انها حشو من الكلام وقليله الفائده. Donc le cheikh dit yani ce que l'imam ibn al-qayyim a dit au sujet des discours de son époque, comment c'était devenu un peu des formes de discours remplis de rimes mais avec peu de bienfaits dedans et qui sont loin des exemples de la sunna, eh bien c'est devenu encore plus éloigné de la guidance aujourd'hui, parce que souvent tu rentres dans une khutbah aujourd'hui puis tu vois que c'est beaucoup de paroles puis très peu de bénéfices dans ces paroles-là. الشيخ الزي فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة بدون مناسبة وبدون مناسبة ويطيل الخطبة تطويلا مملا حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها ولا يتقيد بضوابطها الشرعية فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. Donc le Cheikh il dit que certains parmi les khutaba, ou bien plusieurs d'entre eux, ceux qui font les khutba, ils font leur présentation ou leur khutba comme si c'est une présentation yani à l'école, yani une récitation à l'école. Donc ils montent sur leur khutba et commencent à réciter un truc devant les gens qu'ils ont mémorisé, et yani des fois c'est par rapport à une occasion spécifique, et bien, ou bien des fois c'est sans aucune occasion spécifique, et donc ils commencent à réciter un truc comme ça, et des fois c'est très long et ça devient ennuyant parfois. Donc il y en a même parmi eux qui négligent certaines des conditions de la khutbah, ou bien toutes les conditions en entier, ou bien certaines d'entre elles, et ils ne se limitent pas aux règles et aux principes de la charia. Donc ils ont fait tomber la khutbah à un niveau très bas, qui fait en sorte que le but qui est recherché, d'avoir un effet bénéfique sur les gens, n'est jamais atteint à cause de ça. Et il dit: وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضع لا تتناسب مع موضوعها وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام وقد لا يفهمها غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم فيدخلون فيها المواضع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. Donc le cheikh il dit que certains parmi les gens qui font la khutba, ils font une khutba sur des sujets qui ne correspondent pas avec qu'est-ce qu'ils devraient parler, et qui sont pas, et le cheikh il dit que ça ne fait pas partie de la sagesse de les mentionner dans une situation, ou bien dans cet endroit-là. Et donc la plupart des gens, peut-être qu'ils ne comprendront pas, parce qu'elles sont à un niveau plus élevé que le niveau le niveau des gens qui sont en train d'écouter cette khutba. Donc ils parlent de toutes sortes de trucs qui ont rapport avec les journaux, puis avec les situations politiques, et ils racontent toutes sortes de choses de qu'est-ce qui se passe, et la plupart des gens qui sont présents, ils en profitent pas beaucoup, parce que c'est pas des choses très bénéfiques. Donc le cheikh il dit: فيا أيها الخطباء, ô vous qui faites la khutba, عودوا بالخطبة إلى الهدى النبوي, retournez avec la khutba vers la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام وضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة وعالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر وأكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر. Le cheikh il dit que on doit se concentrer, c'est-à-dire il dit: concentrez-vous sur les sujets en vous basant sur les textes du Coran et de la Sunna qui correspondent à la situation, et associer à ça la mention de la crainte d'Allah, l'incitation à craindre Allah, et la bonne exhortation et essayer de guérir par ces choses-là, par ces textes-là, les malades, les maladies de votre société avec par un style qui est clair et qui est résumé. Et essayer de mentionner beaucoup de Coran, parce que c'est par le Coran qu'il y a la vie des cœurs et la lumière des yeux. Cheikh il dit إنه ليس المقصود وجود خطبتين فقط بل المقصود أثرهما في المجتمع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا. Le Cheikh il dit que c'est pas suffisant juste d'avoir deux khutbah seulement, mais il faut que le but de cette khutbah là soit leur effet, l'effet qu'elles vont avoir sur la société. Comme le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah il dit rahimahullah, ce n'est pas suffisant dans une khutbah de simplement blâmer ou critiquer la dunya et de mentionner les choses de la mort. Il faut que yani on mentionne quelque chose qui a rapport avec la khutbah telle qu'on les connaît par habitude, qui font bouger les cœurs, comme le cheikh dit bima yuharriku al-qulub wa yab'athu biha ila al-khayr وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه. Donc il faut mentionner pas seulement les choses qui vont faire bouger le cœur, mais qui va faire bouger le cœur et qui va également les pousser à faire le bien. Donc juste de blâmer la dunya et d'avertir les gens contre la dunya, c'est des choses que les gens qui rejetaient les législations ou les lois des prophètes, ils mentionnaient ça eux aussi. Ils blâmaient la dunya, ils critiquaient la dunya et ils avertissaient contre la dunya. Mais il faut également qu'il y ait une incitation vers l'obéissance et un blâme de, ou bien disons interdire aux gens le péché et leur parler contre le péché, et également appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et leur rappeler de ses bienfaits. Et le cheikh il dit قال ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود. Ibn Taymiyyah il dit également, et la khutbah elle ne peut pas atteindre son but si on la fait trop courte ou bien trop résumée, parce que on n'arrive pas à émettre un message clair quand c'est trop court. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la khutba, ses yeux devenaient rouges et sa voix s'élevait et il se mettait en colère et il disait comme s'il avertissait une armée. Il disait صبحكم ومساكم. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait la khutba, et c'était ça son état lorsqu'il faisait la khutba. Ensuite le cheikh il dit وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ أَنَّهُ يَسُنُّ فِي خُطْبَتَي الْجُمُعَةِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَأَبْلَغُ فِي الْوَعْظِ حِينَمَا يشاهد الحضور الخطيبة أمامهم. Donc le cheikh il dit que les ulama, les fuqaha ont mentionné que c'est une sunna de faire la khutba sur un minbar, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutba sur le minbar, et c'est plus facile dans ce cas là lorsqu'on est sur la même barre, c'est plus clair pour transmettre la parole et ça atteint mieux les gens. Et pour l'exhortation, c'est plus fort en plus. Donc le cheikh il dit, tout le monde peut le voir plus facilement et donc c'est mieux. Parce que le khatib est sur le même bar et donc c'est plus facile de le voir comme il faut.
وقال النووي رحمه الله واتخاذه سنة مجمع عليها ويسن أن يسلم أو أن يسلم الخطيب ويسن أن يسلم الخطيب على المؤمنين إذا أقبل عليهم لقول جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم رواه ابن ماجه وله شواهد ويسن أن يجلس على المنبر إذا إلى فراغ المؤذن لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب رواه أبو داود. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Nawawi a dit que de prendre un minbar c'est une sunna au sujet duquel il y a un accord. Donc tout le monde sont d'accord sur cette sunna. Et il dit également que c'est une sunna. Et il dit également que lorsque l'imam rentre, il donne le salam à tout le monde. Donc il dit assalamu alaikum lorsqu'il arrive devant les gens. Et donc ça c'est une sunna basée sur un hadith rapporté par Jabir, selon Jabir, par Ibn Majah. Et il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur le minbar, il disait assalamu alaikum aux gens. Et il dit également que c'est une sunna que lorsque tu arrives sur le minbar, tu dois t'asseoir dessus jusqu'à ce que l'imam termine de faire le adhan. Et ensuite, lorsque le adhan est terminé, eh bien, tu te lèves et tu commences à faire ton khutbah. Comme c'est mentionné dans un hadith selon Ibn Omar, rapporté par Abu Dawood, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait, lorsqu'il arrivait, il s'assoyait sur le minbar jusqu'à ce que le muazzin terminait son adhan, et puis après il se levait pour faire la khutbah. Et il y a à ce sujet-là, il y a souvent une bid'a qui se fait dans les mosquées. C'est que j'ai remarqué ça aussi dans certaines mosquées. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a un adhan qui se fait dans la mosquée, puis là ils font l'adhan, il y a un muazzin qui fait l'adhan, après ça tout le monde se lève et ils font deux raka, et après ça le muazzin fait un autre adhan encore une fois, puis là après ça l'imam arrive pour faire la khutbah. Donc ils font deux adhan et ça c'est pas correct. D'accord? La sunna c'est que tu fais un seul adhan et l'imam il monte sur le minbar. Et puis l'iqama après le dernier, après la khutbah, on fait l'iqama puis on commence la prière. Ça c'est la sunna. Donc le cheikh il dit ومن السنن ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم فيفصل بينهما بجلوس متفق عليه. ومن سننها أن يخطب قائما لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله وتركوك قائما وعمل المسلمين عليه. Donc le cheikh il dit, parmi les sunnah du Jumu'ah, de la khutbah, c'est que il y a deux khutbah et que qu'il faut qu'ils soient ces deux khutbah là séparés par un moment où l'imam s'assoit entre les deux. Le cheikh il mentionne un hadith rapporté selon Ibn Omar. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait deux khutbah et il se tenait debout, puis il, entre les deux khutbah, il séparait les deux khutbah par un court moment où il s'assoyait. Et ça c'est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit également que la sunnah c'est de se tenir debout pour faire le khutbah en se basant sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi sur le verset 11 dans surat al-Jumu'ah où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَرَكُكَ قَائِمًا, et il te laisse debout, yani il te laisse comme ça debout, et donc les musulmans ont toujours agi selon ça, hein, parce que je suis allé dans une mosquée ici à Montréal une fois et j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu de toute ma vie. Yani c'est la mosquée MCQ. Et puis là, il y a un Algérien qui faisait une khutbah, un frère algérien, parmi les gens de Hezbiya et tout. Il faisait la khutbah et il marchait. Et il se promenait de long en large en avant du premier rang dans la mosquée. Ça, j'avais jamais vu ça dans une khutbah de Jumu'ah, subhanallah. Donc, vraiment, ça c'est des exemples qu'on voit de nos jours là de bid'a incroyable. Après le cheikh il dit wa yusannu an ya'tamid wa yusannu an ya'tamid ala 'asa wa nahwi. Il dit que c'est également une sunna que il se tienne sur un, il se supporte par un bâton ou quelque chose de ce genre, ou une canne ou quoi. Mais en réalité ça c'est juste parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait ça lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il était vieux ou plus âgé là, à la fin de sa vie, ou quand il était malade, pour se tenir sur le bâton. Et donc c'est pas une sunna en général de prendre un bâton pour faire la khutbah, excepté si c'est nécessaire. Donc après le cheikh il dit wa yusannu an yaqsida tilqa'a wajhihi لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم لقول ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم ولا يقصرها تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. ومعنى قوله مئنة من فقهه أي علامة على فقهه. Donc le cheikh il dit que c'est une sunna également de raccourcir la khutba, yani de façon raisonnable, ok, et c'est-à-dire de façon modérée et de façon à ce que les gens ne soient pas trop ennuyés et qu'ils ne s'enfuient pas. Et aussi il ne faut pas trop raccourcir d'une façon qui va faire en sorte que la khutba va être trop courte et qu'il n'y aura pas assez de bienfaits dans la khutba et que les gens ne vont pas profiter de cette khutba si elle est trop courte et qu'il n'y a pas assez d'explications dedans. Donc l'imam muslim a rapporté selon Ammar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la longueur de la prière et la courte durée de la khutba est un signe de la compréhension ou du fiqh d'une personne. Alors allongez la prière et raccourcissez la khutba. Et donc le cheikh il dit, et la signification de la parole lorsqu'il dit parmi les ma'innatun, ma'inna ça veut dire le signe de son fiqh. Donc c'est ça ce qu'il expliquait le cheikh. Et ensuite il dit wa yusannu an yarfa'a sawtahu biha لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه لأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. Donc il dit le cheikh que parmi la sunna, parmi les choses qui font partie de la sunna également, c'est que la personne élève sa voix lorsqu'il fait le khutba, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait lorsqu'il faisait la khutba, il élevait sa voix et il se mettait en colère. Et yani ça c'est quelque chose qui reste plus, qui a plus d'effet sur les esprits des gens lorsque tu leur parles avec force et que tu montres que le sujet est important. Et donc tu les parles avec des expressions qui sont claires et fortes et qui ont des effets sur eux, sur les gens, inshallah. Donc après il dit wa yusannu an yad'u lil muslimina bima fihi salah dinihim wa dunyahum wa yad'u al imam ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة الأمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج أهل البدع. قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح المسلمين. وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستهربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. الشيخ الزيكة parmi les exemples de la sunna c'est que on fasse des dua pour les musulmans, pour le bien dans leur religion et dans leur dunya, et qu'on fasse des du'as pour le dirigeant, l'imam des musulmans, le dirigeant des pays musulmans, pour que Allah corrige leur religion et arrange leurs affaires et leur donne le succès. Et de faire le dua pour les dirigeants musulmans, ça faisait le cheikh il dit que c'est toujours quelque chose qui a été connu parmi les musulmans et ils ont toujours agi de cette façon, de faire le dua pour les dirigeants des musulmans et de demander à Allah le succès et la réforme de la religion pour eux, et ben ça fait partie du manhaj des gens qui suivent la sunna et al-jama'a. Donc d'abandonner ce dua pour les dirigeants, et ben c'est comme ça fait partie de la voix des gens de bid'a. Et l'imam Ahmed il disait que s'il savait qu'il avait une invocation qui allait être exaucée, et ben il allait la garder pour le dirigeant. Pourquoi? Parce que le cheikh il explique que si le dirigeant est bon, alors ça va être bon pour tous les musulmans. Et donc c'est quelque chose qui est bon du fait que les musulmans aient un bon dirigeant, comme ça arrange leurs affaires. Et le cheikh il dit que ça c'est une sunna qui a été abandonnée par beaucoup de gens aujourd'hui. Et aujourd'hui souvent les gens sont étonnés lorsqu'ils entendent quelqu'un qui invoque pour le dirigeant ou qui demande à Allah d'aider les dirigeants ou de leur donner le bien. Et il y en a même qui ont une mauvaise pensée au sujet de ceux qui font ça. Surtout que maintenant le manhaj des Khawarij est très répandu parmi les musulmans et ils s'imaginent tout le temps que celui qui invoque et qui demande le bien pour les dirigeants, ils s'imaginent que toutes sortes de choses fausses au sujet de cette personne-là, alors qu'en réalité, comme on a dit, c'est le manhaj des gens de la sunna de demander le bien pour le dirigeant. Ensuite, le cheikh il mentionne parmi les autres exemples de qui font partie de la sunna pour le Jumu'ah, il dit wa yusannu idha fariga min al-khutbatayn an tuqamu as-salata mubasharatan wa an yashra'a fi as-salati min ghayri faslin tawil. Cheikh il dit que lorsque l'imam a terminé sa khutba, il doit tout de suite commencer la prière, c'est-à-dire on fait l'iqama pour la prière tout de suite et puis l'imam doit commencer la prière sans avoir trop de temps d'attente entre la khutba et la prière. Le cheikh il dit wa salatu al-jumu'ati rak'atan bil ijma' yajharu fihima bil qira'ah wa yusannu an yaqra fi ar-rak'ati al-ula minhuma bi surati al-jumu'ah ba'da al-fatiha wa yaqra'u fi ar-rak'ati ath-thaniya bil fatihati بعد الفاتحة بصورة المنافقين لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن أبي هريرة ويقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية وقد صح أنه كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين وأحيانا بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية ولا يقسم صورة واحدة من هذه السور بين الركعتين لأن ذلك خلاف السنة والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود. Donc pour terminer ce cours, le cheikh il explique que la salat Jumu'a elle a deux rak'ah. Et on doit réciter les deux sourates, les sourates à voix haute dans la prière. Et il dit que c'est une sunnah de réciter dans la première rak'a sourate al-jumu'ah et dans la après la fatiha, et dans la deuxième on peut réciter sourate al-munafiqin. Et ça c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ces deux versets là. Récitait ces deux sourates là, ou bien il récitait également la sourate Sabbih isma rabbika al-a'la dans la première rak'a et dans la deuxième hal ataka hadithul ghashiyah. Et il dit que donc ça c'est rapporté également. Donc des fois il faisait l'exemple il faisait Al-Jumu'a et Al-Munafiqin, et des fois il faisait Al-Ghashiya wa Sabbih Isma Rabbika Al-A'la. Ensuite il dit, il ne faut pas diviser une de ces sourates-là en deux pour les deux rak'at. Il faut les faire en entier, une sourate dans chaque rak'at. Sinon c'est contraire à la sunnah. Et il dit que la sagesse du fait qu'on récite à haute voix dans la prière de Jumu'a, c'est parce que c'est plus... disons c'est plus clair pour faire passer le message et le but, yani. Donc c'est plus ça a plus d'effet sur les gens. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, puis on continuera ça inchallah la fin de semaine prochaine inchallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.